Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Madame, monsieur, bonjour. À la une, ces chiffres, environ 56 millions d'enfants en RDC risquent de souffrir des effets du changement climatique puisqu'ils vivent justement dans des milieux exposés à ces risques. C'est le directeur de la Direction du Développement Durable au ministère de l'Environnement qui a révélé ces chiffres. C'était hier au cours d'un atelier à Kinshasa. Des détails dans ce journal. Nous serons dans le nord Ubangi. Le gouverneur de province a lancé mercredi à Badolité la distribution des semences vivrières pour la nouvelle campagne agricole. Il a appelé à cette occasion les bénéficiaires, dont des paysans, à s'en servir pour augmenter la production et renforcer la sécurité alimentaire de la province. Notre invité Fifa Mikaba, président de la Fédération des entreprises du Congo, fait qu'au Grand Bandundu, dénonce la multiplicité des barrières érigées sur la route Kinshasa-Kikwite. Il parle de 15 au total avec un impact sur les prix des biens. Bienvenue à cette édition d'information. Nous ouvrons ce journal avec ces chiffres alarmants. Environ 56 millions d'enfants, soit près de la moitié de la population de la RDC, vivent dans des milieux exposés aux risques dus au changement climatique. Ces statistiques ont été dévoilées hier jeudi à Kinshasa par le directeur de la Direction de Développement Durable au ministère de l'Environnement. Aimé Mbuyi Kalombo les a annoncés au cours de l'atelier de validation technique de l'analyse de paysage climatique pour les enfants en RDC, travaux organisés avec l'appui de l'UNICEF. Dédité avec Blaise Ndongala.
Ces hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement estiment que ce forum a marqué une étape déterminante dans les processus d'amélioration des réponses aux risques climatiques et environnementaux affectant les enfants en RDC. À cette occasion, des experts étatiques et non étatiques ont validé l'analyse du paysage climatique pour les enfants congolais. Ces documents visent à mettre les tout-petits à l'abri des effets du changement climatique à travers les pays. Les participants à cette rencontre plaident pour la mise en œuvre du Conseil national sur le climat et de l'environnement pour coordonner les actions relatives au changement climatique en RDC. Ils insistent également sur la mise en place des mécanismes transparents d'affectation d'une part des bénéfices issus des financements carbone vers des investissements résilients en faveur des enfants. De son côté, le chef de la section Watch et Climat à l'UNICEF, Joachim Peters, juge nécessaire que ces documents deviennent un outil stratégique d'aide à la décision capable d'orienter les politiques publiques, la planification sectorielle et les investissements dans les provinces les plus affectées.
Et au Nord Kivu, pendant ce temps, une trentaine d'acteurs locaux de la protection de l'enfant prennent part à une formation axée sur le suivi et le rapportage des violations graves des droits des enfants dans un contexte de conflit armé. L'atelier de deux jours ouvert hier jeudi à Goma est organisé par la MONUSCO à travers sa section de la protection de l'enfant. L'objectif est de renforcer les capacités des participants afin d'améliorer la documentation et le signalement de ces violations. Retour sur le contexte du lancement avec Bernard Denyangui.
Un des participants explique que la province du Nord Kivu, fortement affectée par les conflits armés et l'activisme de plusieurs groupes armés locaux et étrangers, enregistre une augmentation inquiétante de violations graves des droits des enfants. D'où l'urgence de renforcer les compétences des acteurs locaux sur les mécanismes de suivi et de rapportage, d'autant plus qu'ils font face à de nombreuses difficultés d'accès aux zones touchées par l'insécurité. Clément Bavoukaye, coordonnateur de l'ONG PAMI.
Puis le contexte actuel, les guerres, les déplacements des populations, les cas de recrutement des enfants dans les forces et groupes armés, cette formation pourra nous aider d'améliorer aussi la manière de faire.
Du côté de la MONUSCO, le chef de la section protection de l'enfant insiste sur le caractère stratégique et coordonné de cette initiative face au contexte sécuritaire actuel dans la région. Mathieu Ndongo-Koni.
La MONUSCO continue d'exercer le mandat de documentation et de plaidoyer sur les violations graves commises contre les enfants. L'UNICEF joue un rôle central dans la coordination de la réponse ainsi que dans la prise en charge holistique des enfants affectés par les conflits armés.
30 moniteurs participent à cette formation. Ils sont issus des organisations locales de défense des droits de l'enfant basées dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru-Masisi ainsi que dans la ville de Goma.
Les notions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels d'ESC étaient au centre d'un atelier de formation initié par l'Organisation paysanne pour le développement durable OPD. CDD en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ici à Kinshasa. À l'issue de ces assises clôturées hier, une trentaine d'acteurs issus des différentes structures qui défendent les droits de l'homme ont renforcé leur capacité autour de ces droits de deuxième catégorie. Pour Isaïe Mouindo Mbumba, coordonnateur de l'OPDD, cet atelier s'inscrit dans la dynamique de matérialiser la politique de sécurité sociale en RDC, la protection des populations. Élise Kavira pour les détails.
Selon le coordonnateur de OPDD, les États ont des obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits des deuxièmes catégories qui semblent être moins connus, pourtant essentiels à la vie de la communauté. Parmi ces droits, Isaïe Mouindo Mbumba cite ceux liés à l'éducation, à la santé, à la culture et autres. Les experts et autres facilitateurs ont martelé sur le fait que chaque État a l'obligation de garantir le droit à l'emploi, assurer l'accès à l'alimentation essentielle minimale, assurer l'accès au minimum en matière d'hébergement, aussi sur l'assainissement et à un approvisionnement suffisant en eau potable, fournir les médicaments essentiels. Parmi les notions apprises durant cette formation, Isaïe Mouindo Mbumba parle des droits à un niveau de vie suffisant et à la propriété, et aussi des droits économiques, sociaux et culturels en période de fragilité. Signalons que la RDC a ratifié le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels depuis 1976.
Faciliter l'accès aux soins de santé de qualité pour toutes les couches de la population, tel est l'objectif d'un atelier en cours depuis mercredi à Kinshasa. Ces travaux sont organisés par l'ONG Si Jeunesse Savait. La rencontre vise à mobiliser les organisations de la société civile autour de la promotion d'un accès équitable aux soins de santé pour tous. À travers cet atelier, les organisateurs entendent renforcer leur plaidoyer en faveur d'un système de santé inclusif capable de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Que retire de ces travaux, Daniela Awa?
Les organisations de la société civile entendent jouer un rôle central dans la promotion de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous. Pour y parvenir, elles misent sur la mobilisation des communautés et les plaidoyers auprès des décideurs, tant au niveau local que national. Un participant à cet atelier rappelle l'engagement de la société civile dans la défense du droit à la santé. Fabrice Mouteba.
Nous sommes là pour militer pour les droits à la santé, à ce qui concerne la sensibilisation, l'organisation des activités et la mobilisation de la communauté. Nous devons travailler d'arrache-pied, mener des activités de plaidoyer auprès des décideurs de la République au niveau national ainsi qu'au niveau local.
L'intervenant insiste également sur la nécessité de fédérer davantage d'acteurs autour d'une dynamique commune afin de renforcer l'impact des actions en faveur du droit à la santé. Maître Platini Alepe lance un appel à l'unité.
Je lance cet appel à d'autres camarades qui nous suivent de loin à pouvoir venir intégrer les mouvements pour que dans l'ensemble, en termes de synergie, nous unissons nos forces pour amener des actions visant à défendre les droits à la santé de la population congolaise.
Un appel à l'engagement collectif pour faire du droit à la santé une réalité concrète pour chaque Congolais.
Éducation nationale, plus de 9500 enseignants du nord du territoire d'Idiofa dans le Kwilu revendiquent leur droit de percevoir leur salaire et ils y vont avec cette menace. Si aucune solution n'est trouvée dans un délai d'une semaine, ils vont décréter une grève sèche. L'intersyndicale Kwilu 3 a pris cette décision mercredi. C'était à l'issue de son assemblée générale extraordinaire tenue à Dibaya Lubwe. Dans leur déclaration, dont une copie est parvenue à Radio Kapi, ces hommes de la CRE disent être victimes d'un traitement discriminatoire de la part de Afriland First Bank. Ils affirment que la banque ne leur donne aucune suite quant à leur salaire du mois d'octobre 2025, pendant que leurs collègues d'autres contrées l'ont déjà perçu depuis le mois dernier. Juste Mr. Abilanda nous propose un extrait de leur mémorandum. Il est lu par Willy Miaba Ariza, secrétaire de la Confédération syndicale du Congo.
Nous, enseignants du nord d'Idiofa, dans la province éducationnelle Kwilu 3, dénonçons avec force le non-paiement de notre salaire du mois d'octobre 2025. Depuis que la banque Afriland vient de payer la ville commune d'Idiofa, un silence de cimetière s'observe pour les autres coins, notamment le nord, dont la sous-division de Dibaya Lubwe fait partie. Comment expliquer que dans une même province éducationnelle, les enseignants qui sont payés par la même banque et dans un même fichier de paye soient traités différemment? Plus de 9715 enseignants du Nord abandonnés à leur triste sort, ne sachant à quel sein se vouer, sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, pour que notre salaire d'octobre 2025 soit retrouvé Faute de quoi, une grève sèche sera déclenchée par les concernés en dehors 7 jours.
Nos efforts pour avoir la réaction de la banque n'ont pas abouti jusque-là. Direction le Nord Ubangi, le gouverneur de province Jean Bosco Kotongo a lancé mercredi à Gbadolité la distribution des semences vivrières pour la nouvelle campagne agricole. Des autorités locales et des agriculteurs sont venus nombreux à cette cérémonie. Détails avec Askenzi Gbatayoro.
C'était un mercredi pas comme les autres au Motène Zekele à Gbadolité. Des centaines d'agriculteurs paniers à la main sont venus assister à un événement qu'ils espèrent transformateur. Le lancement officiel de la distribution des semences vivrières dans la province du Nord Ubangi. Dans son discours, le gouverneur de province a insisté sur un point. Utiliser ces semences avec soin pour augmenter la production et renforcer la sécurité alimentaire dans la province. Mais ce n'est pas tout. Jean Bosco Kotongo a aussi fait une annonce qui a fait réagir l'assistance. Selon lui, le gouvernement provincial va bientôt acquérir des tracteurs. Ces engins seront mis à disposition des agriculteurs pour moderniser le travail de la terre. Pour ces agriculteurs, l'annonce d'acquisition des tracteurs a sonné comme une petite révolution, laquelle pourra les aider à réaliser de grands champs et leur évitera les souffrances de labourer la terre avec la houe, tout en indiquant que ces durs labeurs a rendu leurs mains cailleuses. Ils n'en peuvent plus. Pour le gouverneur, le semence distribué, c'est la vie. L'autorité provinciale attire l'attention des agriculteurs de ne pas les gaspiller. Pour cette distribution de semences, l'idée de l'autorité provinciale est de faire de l'agriculture un pilier de croissance et un moteur de développement durable de sa province.
Et dans les territoires de Benin Nord Kivu, les casques bleus sud-africains basés à Eringeti ont assisté mardi l'école primaire de Ndalia, située dans la province voisine de l'Ituri, c'est à travers un don en matériel et fournitures scolaires. Cette assistance a été réalisée dans le cadre des activités civiles militaire de la MONUSCO. Elle est destinée à améliorer les conditions d'études de ses élèves. Au total, 152 élèves, dont 75 filles, et des enseignants ont bénéficié de ce geste. Autre précision avec Martial Papimoukeba.
Les dons comprennent 20 pupitres, des cahiers, des stylos, des crayons, ainsi que du matériel pédagogique pour améliorer les conditions d'apprentissage. Les élèves et les responsables de l'école ont salué cette initiative des casques bleus en faveur des enfants vulnérables, notamment les déplacés et orphelins affectés par les violences. Les projets bénéficient aussi aux élèves des villages voisins, dont Katabeyi, Biané et Mufutabangi. Par la même occasion, la MONUSCO a sensibilisé les bénéficiaires à son mandat à l'importance de la collaboration avec les services de sécurité ainsi qu'au système d'alerte précoce. Une séance d'information sur les dangers des engins explosifs improvisés a également été organisée avec un appel à la vigilance. Les élèves ont été encouragés à signaler tout objet suspect aux adultes ou aux autorités compétentes. Les bénéficiaires ont salué cet engagement de la MONUSCO et promis de renforcer la collaboration avec les casques bleus. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Province du Haut-Katanga, retour au calme dans la commune de Lakenya à Lubumbashi. C'est après des affrontements qui ont opposé mardi dernier des jeunes se réclamant comme des militants de deux partis politiques, l'UNAFEC et l'ARDEV. Le bilan fait état de blessés, de dégâts matériels importants, d'arrestations également et d'une paralysie des activités économiques dans la commune. La société civile du Haut-Katanga appelle les responsables des partis politiques à former la jeunesse en mettant en place des mécanismes pour son encadrement. Le point avec Paula Munanga.
Selon des témoignages recueillis, les conflits entre des militants identifiés comme étant de l'UNAFEC et ceux de l'ARDEV tirent son origine dans une querelle liée à la délimitation des zones d'influence entre les deux camps. Au cours des affrontements, il y a eu des jets de projectiles et l'usage d'armes blanches, indique des sources. Ces violences ont paralysé les activités économiques de la commune de Lakenya. Boutiques, magasins et autres activités sont restées fermées. Les mêmes sources rapportent que des véhicules ont été incendiés et des biens appartenant à des particuliers ont été vandalisés au cours des échauffourées. La police est intervenue pour rétablir l'ordre. D'après une autorité de la commune de Lakenya que nous avons contactée, la police a procédé à l'arrestation des auteurs de ces troubles et les recherches se poursuivent pour arrêter d'autres qui sont en cavale. Dans un communiqué de presse, la société civile du Haut-Katanga condamne ces actes de vandalisme et accuse certains responsables des partis politiques de favoriser la création de groupes assimilables à des milices. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso prête serment pour un cinquième mandat à la tête du pays. Le chef de l'État congolais, 82 ans, dont 41 ans cumulés au pouvoir, a été investi hier pour son cinquième mandat consécutif. Il a été réélu avec près de 95% de voix le 15 mars dernier. La cérémonie a eu lieu dans un stade à Kintele, dans la banlieue nord de Brazzaville. C'était en présence de centaines de milliers de Congolais et d'une dizaine de chefs d'État africains, dont le président Félix Tshisekedi.
L'invité.
La Fédération des entreprises du Congo, FEC, Kambandundu, dénonce la multiplicité des barrières érigées sur la route Kinshasa-Kikwit. Pour son président, devant chaque barrière érigée par la police de circulation routière, les camionneurs sont obligés de payer des sommes exorbitantes avant de passer. Fifa Mikabar affirme que de Kinshasa-Kikwit, il faut compter au moins 15 barrières réunissant plusieurs services étatiques. Pour lui, cette situation est la principale cause de la hausse de prix de produits provenant de la plupart des provinces issues de l'ex Rambandundu. Fifa Mikabar s'entretient avec Blaise Chindani Kambala.
Fifa Mikabar, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Que dénoncez-vous exactement concernant les barrières sur route nationale numéro 1?
La Fédération des entreprises Grand Bandundu dénonce la multiplicité des barrières sur la nationale numéro 1. Tronçon Kipit Kinshasa. Dans la partie Pilou, la PCR a érigé des barrières à chaque 30 km où elle s'avertue à rançonner les camionneurs. Oui, j'insiste que rançonner le camionneur, c'est parce qu'il n'établit aucune note de perception. Donc, et puis, avec la DGM, chaque passager doit payer au moins 1000 francs congolais avant de passer. Donc, à la partie Kinshasa, comme au Kwango, tous les services d'assiette se sont ajoutés aux barrières de la PCR pour tracasser le camion qui passe sur la route, la nationale numéro 1. Vraiment, cela influence la hausse des prix sur les marchés des Kipit comme des Kinshasa.
Oui, dites-nous, toutes ces barrières sont-elles légales ou non?
On va dire légal comment? Est-ce que, imaginez-vous, dans la partie Pilou, à chaque 30 km, on va mettre une barrière. Alors, est-ce que c'est légal, bien sûr, mais cette multiplicité, c'est ça qui forme la tracasserie.
Vous avez au moins combien de barrières?
De Kinshasa qui quitte, il faut compter au moins 15 barrières. Au moins 15 barrières. La route nationale numéro 1, de Kinshasa qui quitte, 15 barrières, je vous dis. Ajoutez encore le pont Bastille qui sème la terreur à Minkao.
Monsieur Mikabar, existe-t-il une réglementation claire sur leur nombre et leur fonctionnement?
Oui, mais vous savez, notre pays est bien organisé. Il y a la loi sur les barrières, il y a la loi sur l'exploitation de la route nationale. Donc, on ne peut pas trouver autant de barrières comme ça. Oui, mais je ne sais pas. La radio Ekapi est suivie dans toute la République, dans la partie Congo central. C'est pas comme dans le Grand Bandundu. Vous savez, cette route traverse trois provinces. Il y a la partie Kinshasa, Kwango et Pilou. Donc la nationale numéro 1 traverse trois provinces. Et chaque province envoie les agents des services d'assiette qui se joignent à la PCR pour demander vraiment des taxes que vous ne pouvez pas imaginer. On vous exige, on exige même aux camionneurs de payer la feuille de route. Vous imaginez un camion en voyage, on vous surprend en plein voyage pour vous demander, pour vous obliger de payer la feuille de route.
Pourquoi ce phénomène persiste-t-il?
Oui, mais maintenant nous passons à la dénonciation pour que les autorités, parce que nous on ne sait pas à quel sens se vouer. C'est pour cela que nous sommes passés à la dénonciation, pour que les autorités compétentes puissent se saisir de la situation.
Alors dites-nous, monsieur, quel est l'impact de cette situation sur le coût du transport des marchandises? Comment cela affecte-t-il le prix des produits sur les marchés?
Oh, mais c'est vraiment, ceux-là ne savent pas qu'ils sont en train de nuire à la population, parce que sur le marché de Kinshasa, les produits agricoles, le prix a beaucoup augmenté. Il y a déjà hausse de prix sur le marché de Kinshasa, à Kikwit aussi, là où on déverse les produits manufacturés. Mais on demandait, on vous dira qu'il y a déjà la hausse de prix aussi de l'autre côté. Donc, cela a un impact négatif sur la population.
Et quelles sont les solutions concrètes que propose la FEC pour réduire ces barrières ou trouver la solution à ce problème?
L'AFEC demande l'implication des autorités nationales pour que le bon climat des affaires puisse régner dans la partie Grand Bandou.
Notre cri d'alarme est lancé vers la direction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Lui qui a toujours œuvré pour le bien de la population, son implication pouvait nous donner la solution par rapport à ça. Et surtout que nous connaissons tous la réalité qu'avec les entités décentralisées, et c'est plus les recettes. Donc l'implication du vice-premier ministre pouvait vraiment nous donner la solution par rapport à cette tracasserie qui ne dit pas son nom sur la route nationale numéro 1.
Fifa Mikaba, président de la Fédération des entreprises du Congo dans l'espace Grand Bandundu, je vous dis merci beaucoup.
Merci, monsieur le journaliste.
Merci également à vous qui venez de suivre ce journal. Il a été préparé par Jules Mister Bilanda, mis en onde par André Mongou. À toutes et à tous, excellente journée.